14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Faut que je retrouve mon petit garçon. Je peux pas faire autrement, là. J'arrive plus à vivre correctement et tant que je l'aurai pas à côté de moi, j'arriverai pas à vivre.
Bonjour, le 2 septembre 2011, le petit Mathis, 8 ans, disparaissait de la vue de tous. Victime d'un enlèvement intrafamilial comme il en existe hélas, des dizaines en France chaque année. Il y a exactement 10 ans, Mathis était ainsi kidnappé par son propre père, Sylvain Joanneau, un homme qui se disputait depuis de longs mois la garde de l'enfant avec son ex-épouse, la mère de Mathis. Pourtant, cette affaire ne va pas se résumer à un drame familiale. L'enlèvement va se transformer en une course-poursuite à travers la France et même à l'étranger. Mobiliser des centaines de policiers et de gendarmes, le père voulait son fils pour lui tout seul. Il va donc décider de son sort et le cacher afin que nul ne le retrouve. 10 ans après les faits, le père de Mathis reste donc le gardien unique des secrets de cette disparition. Un homme muré dans une forteresse de silence, maître d'œuvre d'un insupportable suspense. Où est passé le petit Mathis? Est-il mort ou est-il encore en vie? Son père et ravisseur dira-t-il enfin la vérité? Autant de questions posées aujourd'hui.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Et dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Mathis Joanneau. À l'été 2011, ce petit garçon de 8 ans disparaît brutalement. Il ne faut pas aller chercher très loin le responsable de ce rapt brutal sur fond de divorce difficile. Le père est montré du doigt. Le dimanche 4 septembre 2011, Nathalie Barré attend tranquillement dans sa maison de Caen le retour de son fils Mathis, 8 ans, né le 20 juin 2003. Il est prévu que l'enfant soit ramené par son père, Sylvain Joanneau, à 18h précises. Horaire qui ne souffre d'aucune contestation, il a été arrêté par le juge aux affaires familiales, le magistrat qui gère ce dossier compliqué de garde familiale. Comme convenu, le père est passé 2 jours auparavant, vendredi 2 septembre, prendre son fils à l'école Notre-Dame, au numéro 26 de la rue Jean-Eudes, en plein centre de Caen. Il était 18h. Les enseignants et le personnel de l'établissement n'ont noté aucun comportement étrange chez le père de famille. Rien de particulier non plus chez le petit garçon. La maman, Nathalie Barré, a eu confirmation que Mathis avait quitté l'école accompagné de son père. Ce dimanche soir, passé 18h, Nathalie commence à se poser des questions. Elle tente de joindre son ex-mari, mais le portable ne répond pas. Vers 19h, elle décide d'aller signaler l'absence de son fils au commissariat de Caen. Les policiers l'écoutent attentivement, même s'il s'agit pour eux avant tout que d'un incident intrafamilial plutôt classique. Impossible à l'État pour les policiers d'imaginer la plus grave des disparitions. Ils ont plutôt envisagé un litige familial avec un père qui ne restitue pas son fils, résume maître Aline Lebray, l'avocate de Nathalie Barré. L'enquête pour manquement aux obligations familiales et soustraction d'enfants est ouverte le lundi 5 septembre. Nathalie, la maman, a bien expliqué aux policiers le douloureux contexte dans lequel évolue son couple. Elle a divorcé de Sylvain Joanneau 4 ans auparavant, au mois de mai 2007. Elle jugeait son époux instable sur le plan mental, celui-ci ayant même fait quelques séjours en asile psychiatrique. Sylvain Joanneau n'a pas supporté cette séparation et le fait que Nathalie refasse sa vie tout en s'occupant de leur fils. La suite s'est donc transformée logiquement en une féroce bagarre judiciaire pour la garde de Mathis. 8 mois auparavant, lors du week-end des 8 et 9 janvier, le père a déjà tenté d'enlever Mathis. Il vivait alors avec une nouvelle compagne, Emmanuelle. Il lui avait téléphoné sur un ton hystérique depuis la frontière espagnole, en indiquant que le petit ne cessait de pleurer. Au bout de 2 heures, Emmanuelle l'avait convaincu de rentrer et de ramener l'enfant à sa mère. Cette tentative d'enlèvement avorté naît au moment de la disparition, pas connue de la mère ni des autorités, elle apparaîtra seulement lors des investigations. Aucun signalement de Sylvain Joanneau et de son fils. Le père de famille a pris manifestement la route à bord de son camping-car, un Fiat Levanto de couleur blanche. Les relevés téléphoniques ordonnés par le juge indiquent que le portable de Joanneau a borné le 5 septembre à 5h du matin à proximité de Bayonne, Pays basque. Des relais successifs se sont déclenchés dans cette région jusqu'à Tarnos, dans les Landes. Emprunter la route choisie lors de la première tentative, c'est apparemment ce qu'a décidé de faire Sylvain Joanneau. Le téléphone portable a ensuite arrêté de fonctionner. Et pour cause, le 8 septembre, les parents de Sylvain Joanneau, domiciliés à Rozelle, près de Caen, reçoivent un étrange colis. À l'intérieur se trouve le portable de leur fils en cavale, ainsi qu'une lettre manuscrite que révélera le quotidien Ouest France. Sylvain Joanneau écrit ces mots: « Les 30 000 euros que j'avais en liquide chez moi n'avaient pas été retirés pour partir au Maroc avec Nawel, sa dernière compagne, mais bien pour récupérer Mathis. Certes, je l'ai enlevé, mais un type a fait 2 mois de prison pour l'enlèvement de ses deux garçons pendant 11 ans. 2 mois, ça ne fout pas une vie en l'air. » Les enquêteurs ont désormais la confirmation que cet homme a bien enlevé son fils, il le reconnaît lui-même, et qu'il a décidé de le garder auprès de lui au moins pendant quelques semaines. L'inquiétude est soudain palpable, les recherches prennent une nouvelle dimension, les grands moyens vont être employés pour retrouver Sylvain Joanneau et son fils, Mathis. Tous les commissariats et toutes les gendarmeries de France et de Navarre sont sur le qui-vive pour retrouver la trace de Sylvain Joanneau et de son fils Mathis, particulièrement à l'extrême sud-ouest du territoire, le Pays basque, où le père de l'enfant semble avoir ses habitudes. Il se déplacerait en camping-car blanc de marque Fiat. Pourtant, ce n'est pas vers la frontière espagnole que le camping-car est retrouvé le 9 septembre, une semaine après l'enlèvement, mais sur une aire destinée à ce genre de véhicule à Villers-Bocage, à une trentaine de kilomètres de Caen. Le véhicule est vide et bien rangé. Aucun désordre n'est constaté à l'intérieur, aucune trace de lutte ou de sang ne sont détectées. Grâce à un ticket de paiement, les enquêteurs découvrent que le 2 septembre au soir vers 20h30, le père et l'enfant ont dîné au McDonald's de Bretteville-sur-Odon. Ils ont ensuite emprunté une portion de l'autoroute A84 pour s'arrêter à Villers-Bocage. Les alentours sont fouillés, mais en vain. Dans la cabine du camping-car, il y a le cartable de Mathis, des documents liés à la procédure de divorce, le passeport de Sylvain Joanneau ainsi que sa brosse à dents. Le père et son fils n'ont sans doute pas séjourné ici très longtemps. Sylvain Joanneau avait tout prévu. Il avait positionné un deuxième véhicule moins voyant sur leur parking. Sur le parking, une Peugeot SW206 grise, une voiture pour brouiller les pistes et poursuivre sa cavale. Le lendemain, 10 septembre, la Peugeot 206 est localisée sur une aire de covoiturage à Laonce, une commune proche de Bayonne. Le véhicule est normalement stationné et fermé à clé. Là encore, aucun désordre n'est constaté, pas de traces de violence ou de sang. Sur la banquette arrière, il y a quelques jouets et une boîte de bonbons. 2 tickets de carte bleue ont été abandonnés sur la plage avant. Le premier concerne la boîte de bonbons achetée dans un hypermarché de Caen. Le deuxième émane d'une librairie de la cité normande. Il indique l'achat de 3 ouvrages concernant l'enseignement du Coran aux enfants. À cette occasion, la mère de Mathis, Nathalie Barré, apprendra de la bouche des enquêteurs que son ex-mari s'est converti à l'islam. Il aurait même épousé religieusement une Marocaine après la séparation. Ce lieu isolé prête à toutes les interprétations. La rivière Adour passe en contrebas. On peut s'y jeter facilement et s'y noyer. Personne ici n'a aperçu un homme adulte ou un enfant déambulé dans le coin. Un seul témoin finira par se manifester. Il dira avoir vu un homme ressemblant trait pour trait à Sylvain Joanneau marcher dans un champ proche du parking. Il tenait un sac en plastique blanc. Il était seul. En cette fin septembre, Sylvain Joanneau devient officiellement l'homme le plus recherché de France. La procureure de Caen, Catherine Dany, a assisté des directeurs du SRPJ de Rouen et de l'antenne de Caen, lance un appel à témoins officiels. Tous les scénarios sont envisagés. Lors d'une perquisition conduite au domicile du père, la PJ a établi que le père de Mathis était un fan de la série Dexter, expert de police scientifique le jour et tueur de criminels la nuit. Joanneau, tout à fois fragile mentalement, menant une double vie spirituelle et instable dans son travail, s'est-il lancé dans la plus tragique des expéditions. Après plus d'un mois d'enquête, la traque porte enfin ses fruits. Sylvain Joanneau, a été aperçu dans un camping de Sifour-les-Plages, dans le Var. C'était entre le 12 et le 13 octobre. Le 17 octobre, il était dans le Gard. Il était blessé et a acheté une paire de béquilles dans une pharmacie de Boisseron. Les 25 et 26 octobre, il passe la nuit à l'abbaye de Saint-Gilles, où on ignore son identité, tout comme au presbytère de Vauvert. L'homme tournant rond dans ce coin du Gard, la police se rapproche. Le 9 décembre 2011, il est interpellé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à 11h35 du matin. Il est seul, pas de Matisse avec lui. Pour la procureure et les enquêteurs, l'objectif prioritaire est de retrouver au plus vite le petit Matisse. Tout le monde espère que cet homme va dire ce qu'il est advenu de son fils, mais ils vont devoir pour cela affronter une montagne de silence. Après son interpellation dans le Gard, Sylvain Joanneau a donc été immédiatement transféré à Caen où l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Il est le seul témoin à pouvoir dire ce qu'il est advenu de Matisse. Le 10 décembre, Joanneau est présenté au magistrat instructeur. Il est plutôt bavard. Il s'explique longuement sur les difficultés de son couple et ce divorce qu'il a si mal vécu. Il accuse son ex-épouse Nathalie d'être une mauvaise mère et de ne pas avoir pris suffisamment, de ne pas avoir veillé sur leur couple. Il assure pour sa part être un bon père et avoir rempli tous ses devoirs. En revanche, dès que le juge aborde la question de Matisse, Joanneau se ferme totalement. Il ne répond plus aux questions, il ne donne aucune information sur une possible séquestration en France ou à l'étranger. L'homme cadenasse alors tous ses propos, les auditions vont se succéder et Sylvain Joanneau va volontiers jouer avec les nerfs du magistrat instructeur. Il promet régulièrement de tout dire à l'occasion d'une confrontation avec son ex-épouse Nathalie Barret, mais finalement, il ne dit rien, se recroqueville dans le silence. C'est à se demander si son plaisir n'était pas de laisser ma cliente dans l'inconnu, un plaisir pervers à mettre en échec tous ceux pour lesquels il a du ressentiment, indique l'avocate de la mère à Ouest-France. Sur le terrain, les recherches, désormais supervisées par les hommes de l'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP, l'office, notamment spécialisé dans les disparitions, ses recherches se multiplient. Des vérifications sont conduites en Suisse, au Vatican, en Suède, aux États-Unis, au Maroc également, où Joanneau a songé un moment à aller vivre avec sa dernière compagne. Tout est passé au crible, mais rien qui ne puisse conduire au petit Matisse. Des cours d'eau sont sondés, des chemins explorés. Comme toujours en matière de disparition, des voyants, des médiums se mobilisent. Leurs informations sont systématiquement vérifiées, mais elles ne donnent rien. Strictement aucune trace du petit Matisse, personne ne l'a vu. Son père reste, lui, obstinément assis sur son tas de secrets. L'enquête ne parvient pas à remonter la piste du petit Matisse. Le 8 avril 2014, Sylvain Joanneau est renvoyé devant une cour d'assises. Il fait appel, mais ne retarde que de quelques mois l'échéance de ce procès inéluctable. Ce 1er juin 2015, la foule des grands jours se presse au palais de justice de Caen. La salle de la cour d'assises du Calvados est bondée et surchauffée. Tout le monde est là pour observer Sylvain Joanneau avec l'espoir qu'il craque, qu'il dise enfin ce qu'il est advenu de Matisse. L'a-t-il caché ou l'a-t-il tout simplement tué? Matisse a-t-il eu un accident ou bien est-il en lieu sûr? La mère de l'enfant, Nathalie Barret, est au premier rang, tout comme la famille de l'accusé. Sylvain Joanneau, 43 ans, apparaît comme un homme athlétique, cheveux longs noirs tirés en arrière et attachés, barbe noire. Il accepte volontiers d'être photographié, preuve selon lui qu'il n'a rien à cacher, alors que jusqu'à présent il a tout caché. Il va lui arriver à plusieurs reprises de lever le poing quand il s'installe dans le box, comme s'il lançait un défi à l'assistance ou peut-être un signe de victoire. La présidente de la cour, Antoinette Lepelletier-Durel, dira avoir eu l'impression que l'accusé s'était construit un personnage. 4 jours de débat, mais hélas, pas de surprise à la clé. L'accusé ne cède pas. Il concède à demi-mot avoir confié l'enfant à ses frères musulmans, mais ne donne aucune précision. Des paroles en l'air, sans doute destinées à éviter le flot des questions et des exhortations à parler, celles venues de l'avocat général et celles également en provenance de sa propre famille. Sa sœur écume ainsi de colère et d'exaspération. « On ne peut rien attendre de lui », hurle-t-elle dans la salle d'assises. La mère de l'accusé, Marie-Elisabeth Joanneau, va encore plus loin. Elle déclare, en fixant son fils, « Je regrette de t'avoir donné la vie. Dis-moi ce que tu as fait de Mathis, où il est, avec qui il est », supplie de son côté Nathalie, la maman. Sylvain Joanneau semble imperméable à ses imprécations. Pour les experts psychiatres, Joanneau s'est muré dans une défense bétonnée. Il est décrit comme une personnalité limite. Un expert psychologue indique « Il y a chez lui un mélange de mégalomanie, de sentiments de toute puissance et une volonté de manipulation ». Le psychiatre Daniel Zaguri note « L'aveu du meurtre, hypothèse la plus probable, serait pour Joanneau synonyme d'effondrement psychique ». Après 4 jours de procès, le mutique Sylvain Joanneau est condamné à 20 ans de prison. L'enquête pour retrouver l'absent du procès, le petit Mathis, va elle se poursuivre sans que la mère ne perde espoir de le retrouver. Après sa condamnation, Sylvain Joanneau est incarcéré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil dans l'Eure. Le dossier Mathis reste toujours ouvert au sein de l'OCRVP, l'office de police, qui s'occupe des disparus. Bien que l'espoir s'amenuise de retrouver vivant Mathis, sa mère, Nathalie Barret, n'a jamais cessé de croire à une issue heureuse. Au mois de juillet 2015, après la condamnation de la cour d'assises, Nathalie fait publier un premier portrait de Mathis, un visage vieilli par un logiciel américain. Un deuxième portrait est diffusé au mois d'octobre 2019. L'année suivante, la police nationale réactive un numéro vert concernant Mathis et un appel à témoins est reformulé. À cette occasion, une nouvelle analyse criminelle du dossier sera lancée afin de voir si des pistes n'auraient pas été négligées. La mère de Mathis et son avocate continue de travailler main dans la main pour essayer de dénicher le moindre indice, le plus infime détail permettant de les conduire à Mathis. Les deux femmes s'étaient ainsi étonnées que le camping-car de Sylvain Joanneau ait été vendu aux enchères au cours de l'enquête. Selon elles, le véhicule aurait dû faire l'objet de vérifications plus poussées. On sait que la science progresse. Peut-être 10 ans plus tard, de nouvelles analyses ADN dans ce camping-car auraient été utiles, regrette l'avocate. Reste à savoir si l'enquête Mathis débouchera un jour.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.